francés.
Latina.
La franco-latina.
C'est en décembre 1719 que Magellan arrive pour la première fois dans cette Patagonie qu'il appellera, on s'en souvient, les Terres de Décembre. Plus de 300 ans plus tard, un autre voyageur publie, sous le même titre, le récit de son propre voyage au bout du monde. Pour son auteur, Olivier Page, la Patagonie aurait bien pu n'être qu'un nouveau déplacement de travail. Rédacteur au guide du routard, il est le plus clair de son temps par monts et par vaux du monde entier, à la recherche des infos et des tuyaux qui rendront plus faciles les envies de voyage des Français. Mais ce n'est pas sans vain que l'extrême sud de l'Amérique attire de plus en plus les voyageurs, les aventuriers et les rêveurs. Olivier Page a craqué et il est parti, pour lui, pour son plaisir, pour sa passion du voyage. Pour nous en parler, il nous a donné rendez-vous au Café des Éditeurs, en plein carrefour de l'Odéon, à Paris.
Le Café des Éditeurs, c'est symbolique. Ça fait 25 ans que je travaille pour les éditions Hachette et pour le guide de Routard. Et donc, les livres qui sont publiés sont composés de pages. Or, je m'appelle Page, mon nom c'est Page. Donc, j'ai vu un clin d'œil intéressant. Et puis, deuxième raison, je trouve que c'est le quartier de l'Odéon est très central. Et donc, pour un rendez-vous, c'est un lieu qui s'impose. Et puis, on est bien assis. Vous avez remarqué ? On est bien assis au Café des Éditeurs.
Et alors, bien installés tous les deux, bien assis tous les deux, je voulais vous dire que je vais vous proposer donc de mots, de phrases, et vous allez réagir, le conteur que vous êtes va certainement réagir. À commencer par les Terres de Décembre.
Alors, Terres de Décembre, c'est donc le titre du récit que j'ai écrit et qui a été publié aux éditions Lucien Souni. Bon, alors, je n'ai pas inventé ce titre. Je suis allé le chercher dans l'histoire de la Patagonie chilienne, puisque en 1520, cette région était, jusqu'en 1520, cette région qui était habitée par des peuples indiens, n'avait pas été vue par des Européens. Elle a été découverte et nommée pour la première fois par Magellan en décembre 1520. Donc Magellan venait donc d'Espagne et se rendait aux Moluques. Et il a cherché un passage entre l'Atlantique et le Pacifique pour contourner le continent américain. Il a découvert donc ce détroit qui est aujourd'hui le détroit de Magellan au sud de l'Amérique latine. Et il est arrivé dans le Pacifique. Il était le premier Européen en fait à voir ça. Et réflexe de marin, ils ont commencé par longer la côte découpée, hostile, très inhospitalière, très belle, mais un paysage très très grave, très très sombre. Ils ont longé donc la côte sud pour l'eau avant de se lancer dans la traversée. Ils ont donc longé cette côte pendant des jours et des jours. Et chaque jour, il fallait consigner le journal de bord, il fallait tenir le journal de bord, et donc noter aussi sur la carte. Les marins tiennent à jour leur carte. Et devant ces terres qui étaient innommées, Magellan a décidé de les nommer Terres de Décembre, Tierras de Diciembre, puisqu'ils sont passés là en décembre 1520. Donc c'est la première appellation européenne donné à cette partie-là de la Patagonie chilienne qui, bon, géographiquement, ça va à peu près de Chiloé jusqu'à Punta Puerto Natales. C'est ça, les Terres de Décembre.
Je voudrais, avant de continuer le jeu de mots, vous faire réagir à l'actualité. Effectivement, vous venez de parler d'une période où les terres viennent d'être découvertes, on ne savait pas qu'elles existaient. Or, ces derniers jours, malheureusement, on a entendu beaucoup parler de ces terres-là, ou au moins d'un coin de ces terres-là, Chaitén, à propos de l'éruption du volcan qui se trouve à côté de cette petite bourgade. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous avez été à Chaitén?
Oui, je suis passé donc à Chaitén en suivant la Carretera Austral, 1200 km de long, qui commence à Puerto Montt et qui descend jusqu'à Villa O'Higgins. Donc c'est le fil conducteur du récit, c'est un récit de voyage sur cette piste australe. C'est une piste caillouteuse, il n'y a pratiquement pas de bitume, qui traverse les plus beaux paysages d'Amérique, enfin du Chili et d'Amérique latine. Il faut aussi parfois comme prendre des ferries, des transbordadores, car la route n'est pas continue, elle est hachurée. Elle est parfois en pointillé. Et la route s'arrête, on prend un bateau, c'est très très beau d'ailleurs, et ensuite on arrive à un quai et la route reprend. On prend des bus, hein, on circule en collectivo, et c'est quelque chose de très très beau. Je suis passé à Chaitén, bien sûr, j'en parle dans le livre. C'est une petite ville qui a été évacuée récemment par la marine chilienne, 4000 habitants à peu près, pour éviter donc, pour des raisons de sécurité. Donc le volcan Chaitén fait partie de ces nombreux volcans qui forment la ceinture de feu du Pacifique, hein, et ils sont endormis apparemment, mais c'est le feu sous la glace. Hein, c'est le feu sous la glace, c'est très beau extérieurement. En fait, c'est un peu sournois parce qu'il continue à vivre. J'ai trouvé ça très beau d'un point de vue poétique, c'est le feu sous la glace. D'un point de vue humain, ça peut donner lieu à des catastrophes. D'ailleurs, là, on suit ça au jour. Moi, personnellement, je suis cette actualité. Ce que je crains, alors, pour répondre à votre question, tant que ce sont des pluies de cendres, c'est dangereux pour les pâturages parce qu'il y a déjà une couche de 10 ou 15 cm. Là, j'ai un article d'hier de la presse qui dit que les vaches vont être en péril parce qu'elles n'arriveront pas à atteindre à manger tout simplement l'herbe, hein, puisqu'il y a une couche de cendres sur les pâturages. Ça, c'est la première chose. Le deuxième risque, bien sûr, c'est la lave, les coulées de lave. Là, c'est beaucoup plus grave parce que la lave peut mettre le feu à la forêt, El Bosque. Donc ça fait partie malheureusement de l'histoire de cette jeune terre qui est le Chili. Et j'espère que ça se passera bien quand même.
Mapuches.
Allez, Mapuches. J'ai eu la chance de rencontrer le Huerquen, hein, le grand chef spirituel et temporel qui représente les droits et les intérêts du peuple Mapuche du Chili. Bon, c'est quelqu'un qu'on ne rencontre pas comme ça le soir.
Pardon, vous parlez là de Aucan Wilcaman.
Aucan Wilcaman, c'est ça, qui habite à Temuco. Ça fait partie des rencontres que j'ai organisées en tant que journaliste. J'ai pris rendez-vous auprès de lui par quelqu'un qui le connaissait. Je voulais le rencontrer, c'était vraiment un désir, une curiosité surtout de le voir. Alors j'ai passé une petite après-midi avec lui à Temuco et nous sommes allés sur à Requem Pillan assister à un conflit entre l'entreprise Arauco, une entreprise forestière, et une communauté indienne. Donc je ne suis pas un spécialiste des Mapuches, mais à travers cette journée, j'ai compris ce qui se passait. Alors, une anecdote amusante avec le Huerquen Wilcaman. Vous savez qu'il existe un descendant du roi de Patagonie en France et qui maintient le flambeau et qui a toujours le titre de roi de Patagonie. D'ailleurs, qui apparaît dans le livre de Chatwin, hein, en Patagonie. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'en ai parlé donc au Huerquen, à Temuco. Et il a rigolé, il m'a dit oui, bien sûr, j'ai reçu une lettre, il m'a assuré de son soutien, et il m'a dit, vous savez, vous avez une épée en France qui vous attend. Et donc le chef du Mapuche m'a dit, oui, c'est une alliance, mais c'est une alliance sans avenir. Donc le livre est donc basé sur des rencontres, étonnants voyageurs, c'est aussi des étonnantes rencontres. Il y a aussi cette rencontre avec Francisco Coloane, qui à Santiago, au 666 Miraflores, que j'ai rencontré peu de temps avant sa mort, et ça a été une rencontre très émouvante. Bien sûr, donc je lui rends hommage. Il m'a adoubé d'une certaine manière en me recevant pendant une heure chez lui. Et puis une autre rencontre aussi très très forte, c'est celle de Douglas Tompkins, qui a créé le Parque Pumalin à Caleta Gonzalo, et avec 300 000 hectares de terre, il a créé un sanctuaire pour protéger la El Bosque. C'est là, où, dans ce sanctuaire, que poussent les alerces. Les alerces, tous les Chiliens connaissent, bien sûr. C'est un arbre mythique. Donc, au fil de cette carretera australe, à mesure que je descendais vers le sud, je me suis enrichi de toutes ces rencontres. Et bien sûr, je ne les garde pas pour moi, je dois témoigner, hein, un journaliste c'est un témoin. Mais ce sont aussi des personnes que j'ai rencontrés dans les bus, dans les collectivos, un charpentier, un forestier, un chercheur d'or, tous ces gens qui font vivre la Patagonie chilienne, un boulanger, un coureur de bois, et aussi des exilés. Pour moi, le voyage, c'est d'abord des rencontres. Hein. Je m'efface devant plus fort que moi. Plus fort que moi, c'est d'abord la force de la nature. Cette nature encore jeune, hein, qui est toujours vivante, on le voit avec les volcans, mais aussi la glace, et puis la puissance du Pacifique. Donc je m'efface devant ça, et il suffit d'avoir des yeux et des oreilles. La deuxième force, c'est la force d'âme, la force de caractère des Patagons chiliens, qui vivent dans des conditions difficiles, dans une région magnifique, et qui arrivent quand même à faire, qui arrivent au bout de leur peine, non sans peine, mais ils y arrivent. Pour moi, la Patagonie, c'est pas du tout une terre magique. Hein. Je pense qu'il y a un abus de langage avec le terme magique, que ça soit dans les agences de voyage, dans les guides de voyage, ou d'une manière générale, dans le langage parlé. Moi, j'ai rayé ce mot-là de mon vocabulaire. Magique, non. C'est plutôt une terre tragique. C'est plutôt une terre tragique. Et puis, en creusant l'histoire de la Patagonie chilienne, eh ben, j'ai découvert le tragique. Des bagnards, des exclus de la société, des personnes qui sont mortes sur la route, les martyrs de la Carretera Austral, des prisonniers politiques qui ont été envoyés là en déportation, de même que les tsars envoyés déportés en Sibérie. Il y a tout ce côté-là que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Donc c'est pas du tout une terre magique, c'est une terre grave, c'est une terre très belle, c'est une beauté grave. Et c'est ça qui m'a amené là-bas.
Est-ce que tout cela, tout ce dont vous venez de nous parler, est-ce qu'on le voit mieux en marchant ?
Alors, la marche à pied, c'est pour moi le moyen de transport le plus naturel, celui qui vient le plus naturellement à l'homme, depuis que l'homme existe, en gros. Depuis Lucie, depuis qu'on se redresse, mais même avant que l'homme préhistorique se redresse, l'Homo sapiens, il avait quand même ses deux pattes et il marchait. Donc, c'est le moyen le plus naturel, c'est le moyen le plus économique. C'est du sport, mais c'est pas un effort surhumain. Et c'est quelque chose, et tous les médecins le disent, qui stimule la pensée. Et donc, je me réfère à, par exemple, un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Jacques Lacarrière, qui était un grand marcheur et aussi un grand écrivain voyageur. Donc je m'inscris modestement dans cette tradition-là. Alors je vous rassure tout de suite, 1200 km de Carretera Austral, je ne peux pas les faire en deux mois, trois mois à pied, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis très curieux de voir ce qu'il y a au bout de l'horizon. En gros, 95% de la route a été faite en petit bus, en microbus, un peu de stop aussi, parfois j'ai fait du stop, et ça a marché. Hein. J'attendais sous la pluie pendant une heure ou deux, c'était très agréable, j'avais toutes les senteurs et les parfums du maquis, et puis les gens s'arrêtent. Et le reste, quand il n'y a plus personne, eh ben je marche, je fais des dizaines de kilomètres à pied. Eh ben c'est quelque chose qui permet de sentir la nature, de sentir vraiment les parfums de la nature. C'est une leçon de modestie aussi, la marche. C'est une leçon de modestie. On s'efface devant plus fort que soi. Et puis, il y a une alchimie intellectuelle qui se passe, c'est qu'on se débarrasse de tout ce qui est superflu au niveau cérébral et mental, et on ne voit plus que l'essentiel. Et cet essentiel-là, on ne peut pas toujours le capter, alors qu'en marchant, en se dépouillant, c'est quelque chose qui vous permet de mieux voir. C'est une seconde vue, je dirais.
Il est clair que l'écrivain et les bretons rêveurs que vous êtes est pour la marche à pied, la preuve, c'est que vous en avez fait un bon petit peu. Mais les journalistes, écrivains, des guides, on a déjà dit, vous êtes journaliste au Guide du Routard. Est-ce que le journaliste, auteur des guides, conseille, lui, la marche à pied ? Et s'il la conseille, sous quelle forme ? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ?
Alors, j'étais journaliste, je suis rédacteur, voyageur, enquêteur. Ce qui signifie concrètement que je pars 120 jours par an à peu près, depuis 15 ans, avec donc ce souci de renseigner des millions de lecteurs. C'est la première collection quasiment en France de guides, donc nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité énorme. Et ça, Philippe Bloguin et Pierre Joss, qui sont les deux piliers du guide, le savent. Ce qui signifie qu'on doit être juste. Pour être juste, il faut être un bon observateur, avoir un esprit critique très fort, savoir pondérer, savoir goûter les choses sur le terrain, parce que j'aime bien aussi les bars et les restaurants, c'est pour ça que je mène cette vie-là. Et il faut aussi donc avoir cette capacité de parler pour des millions de gens. Ça, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. J'ai mes goûts personnels, très prononcés, mais il faut savoir qu'en travaillant pour le guide de Routard, je m'adresse à toute la société. Et pas seulement les petits budgets, les gens fauchés, mais vous savez, le Routard est devenu maintenant une lecture de 17 ans jusqu'à 77 ans quasiment, hein. Donc, en voyageant pour le guide de Routard, je suis allé un jour au Chili et je me suis dit, tiens, voilà une région qui ne me laisse pas indifférente, où j'ai envie de revenir. Ce que j'ai fait donc 2 ans après, j'ai pris un congé sabbatique de 2-3 mois et je suis parti seul en Patagonie chilienne pendant un été austral. Et là, donc, sans obligation, aucune obligation, avec mon propre montant, le temps c'est essentiel, pour justement pouvoir assouvir ma curiosité sans obligation professionnelle, m'arrêter là où j'ai envie de m'arrêter, me laisser guider par mon désir de Patagonie et ma curiosité des autres. De m'arrêter dans les auberges, de ne pas avoir de programme, et en fonction de ça, les choses sont venues à moi. La Patagonie a quelque chose de... C'est comme une personne, quoi. En fait, il y a une grande pudeur dans ce pays, une pudeur, une gravité, et j'aime ça. Bon, je ne suis pas allé là-bas pour le ciel bleu, vous vous en doutez, le ciel bleu, j'en ai un petit peu marre. Tous ces clichés paradisiaques me sont assez lassants et irritants. C'est l'homme qui m'intéresse, ce sont les êtres humains. Et croyez-moi, je pourrais écrire un deuxième livre sur cette richesse humaine. C'est une autre catégorie humaine que j'ai découvert là-bas. Des gens qui vivent quand même un peu isolés du reste du monde, mais qui ne font pas n'importe quoi. Par exemple, cette volonté farouche de ne pas défigurer l'environnement de la Patagonie, ils se battent. Il y a tout un réseau d'associations, d'ailleurs fédérées autour de Douglas Tompkins, parce que lui, c'est un milliardaire, mais un milliardaire animé d'un idéal. Il a été très controversé au Chili pendant des années et des années. On a dit pique et pendre sur lui. Toujours est-il que les Patagons disent du bien de lui. C'est quelqu'un qui a mis toute sa fortune et toute son énergie au service de la forêt australe. C'est quelqu'un de tout à fait respectable. Ce qui n'est pas le cas de tous les milliardaires, des milliardaires américains, nord-américains, qui achètent des terres pour se tourner les pouces et pour frimer en Patagonie argentine. Non, Tompkins mérite vraiment tout notre respect. Et j'ai demandé aux gens, aux Patagons, qu'est-ce que vous pensez de lui ? Aux charpentiers, aux forestiers, aux coureurs de bois, aux chercheurs d'or, à l'épicière du coin. Ils m'ont tous dit qu'il était estimable. Et donc, c'est aussi le courant de sympathie que je veux faire passer. Et puis, mon travail d'explorateur, de faire connaître ces inconnus-là en France. C'est quand même... Tompkins a réalisé quelque chose qu'on ne peut pas faire en Europe. Je lui ai posé la question, alors pourquoi vous ne faites pas ça en Corse ou en Bretagne ? Ah, il m'a dit, mais vous savez, toutes les terres sont prises, c'est la vieille Europe, c'est une civilisation déjà vieille. Alors qu'au Chili, vous avez, dans Patagonie chilienne, j'ai séjourné par exemple à Hornopirène, c'est pas très loin de Puerto Montt. Hornopirène, c'est un village qui a 25 ans d'âge. Et c'est beau, tout ce côté pionnier aussi, j'ai interrogé des pionniers, j'ai rencontré aussi des soldats de l'armée chilienne qui sont... comme dans le désert des Tartares, qui vivent à longueur d'année au bord d'un lac pluvieux et humide, pied d'une mer de glace. Ils vivent dans la solitude, dans une solitude extrême. Bon, c'est vrai que quand on parle d'un soldat, membre de l'armée chilienne, c'est connoté souvent négativement. Ben, j'ai rencontré aussi des hommes bien, qui sont des soldats, qui sont plutôt des défricheurs, des gardiens du... qui font un travail tout à fait respectable, qui ne sont pas des brutes qui tabassent des opposants. Donc j'ai fait le portrait de ces deux soldats qui étaient expatriés et qui vivaient dans des conditions difficiles et qui nous ont sauvés parce que sinon on serait mort de froid. C'était tout à fait à la fin du parcours, hein, en allant vers Villa O'Higgins, vers Tortel par là. Donc des rencontres extrêmement variées. Et en arrivant à Villa O'Higgins, au terminus de la route, j'ai raté toujours les imprévus du voyage. Et ça, c'est le côté savoureux et drôle du voyage. J'avais mis de l'argent de côté pour louer un petit avion et pour survoler la région du Monte Fitzroy, de Villa O'Higgins et de Campo de Hielo Sur, la mer de glace là. Et je suis arrivé avec du retard et l'avionnette était déjà partie. Et ça fait partie de ce genre d'anecdotes du voyage. L'imprévu arrive à ceux qui ont tout prévu. Bien sûr qu'il faut laisser la fantaisie, et ça c'est Nicolas Bouvier qui l'a toujours dit. Et puis dans cet imprévu du voyage Patagon, il y a aussi des périodes un peu dures, de spleen, hein, le spleen de Baudelaire, où les choses ne vont pas, où on est un peu dépressif, où on a envie de rentrer. J'ai même eu envie de rentrer à Santiago, hein. J'en avais marre. Des journées de pluie, des rencontres pas très intéressantes, des cafards dans la salle de bain, le courant qui passe pas, la viande qui, la nourriture qui est mauvaise, dégueulasse. Vous savez, il y a des journées comme ça. Et j'ai eu un jour envie de retourner à Santiago pour aller m'amuser dans les bars et aller faire la fête. Mais non, ça c'est le voyage, il faut accepter ces imprévus, ces moments un peu d'écœurement qu'on peut avoir aussi, hein, parce que la route est longue, la route est belle, mais elle peut être aussi fastidieuse, ça il faut le savoir, hein. Donc c'est pas magique un voyage. Il y a des moments de grand bonheur, puis il y a des moments de solitude, hein, d'isolement et même de spleen. Vous savez, quand j'ai rencontré, bien sûr, la dictature du général Pinochet, ces années noires du Chili, ça revient dans toutes les conversations. Donc je ne pouvais pas éviter ça, au contraire, ça m'est arrivé, des chauffeurs de bus, une aubergiste le soir, entre les soirées sont longues, de 9h à minuit, de minuit à 3h du matin, et j'écoute ces témoignages terribles, hein, de souffrance, de douleur, et qu'est-ce que je ressens? Et ben, c'est quelque chose d'une grande compassion, et ce sentiment aussi que le Chili n'a pas fait encore le deuil tout à fait de cette période douloureuse. Donc il n'était pas question pour moi de faire une thèse là-dessus, mais à travers deux ou trois témoignages, de rappeler quand même la gravité de ce qui s'est passé il y a 20-30 ans. Hein. Et puis aussi de rendre hommage quand même au retour à la démocratie. Quand même, c'est le retour de l'espoir, c'est magnifique. J'y étais au moment des élections de Lagos, c'était avant Madame Bachelet. Et une anecdote amusante, j'étais dans un bus au moment où Lagos a été élu. C'est un des plus beaux moments de mon voyage. La fraternité chilienne, l'exubérance chilienne, les bouteilles de pisco qui ont été débouchées dans le bus. Et j'étais donc le seul étranger. Et j'ai raconté cette scène. Et pour moi, toute la gentillesse du peuple chilien, le côté spontané, direct, le côté extrêmement chaleureux et jovial, est apparu là, dans cette scène de bus, le bus cahotant sous la flotte. Allez, allez, vous venez d'où? Vous êtes français? Allez, tenez, hop! Buvez du pisco, alors la bouteille de pisco. Moi j'adore le pisco. Et vous voyez des scènes qui sont extrêmement savoureuses et fugaces aussi, hein, parce que après je dois continuer mon chemin. Et donc le récit, mon récit est nourri de ça. S'il n'y a pas l'homme au cœur d'un récit, je pense que c'est pas la peine d'écrire. Hein, et surtout le Patagon chilien. J'ajoute aussi une chose, hein, je tiens à le dire, hein, c'est que Chili et Chine, ça commence par la même syllabe. Il s'avère que je connais les deux pays, que j'aime les deux pays, qui sont séparés, Chine et Chili, par l'océan Pacifique, qui est mon océan de cœur. Hein. Il s'avère aussi qu'il n'y a pas une semaine ici, en France, en Europe, sans une publication de livres sur la Chine, surtout cette année avec les Jeux Olympiques. On n'a pas du tout la symétrie qu'avec le Chili, qui est un pays aussi attachant, aussi intéressant, qui n'a pas la même histoire que la Chine. Et j'ai voulu aussi rétablir ça, témoigner. C'est le travail d'un explorateur, c'est d'aller là où ça se passe. Et j'aimerais voir 10 livres sur le Chili chaque année. C'est quand même pour moi le plus beau pays, un des plus beaux pays du monde. Une géographie de dingue, mais une géographie magnifique. 4000 km du nord au sud. On n'a rien d'équivalent en Europe. Une diversité climatique épatante. L'endroit le plus sec de Chile, c'est Arica. 2 mm de pluie, c'est un désert. C'est tout à fait au nord. Et puis l'endroit le plus humide, c'est le glacier Balmaceda, en Patagonie chilienne. 8 mètres de pluie par an. Et c'est extrême, incroyable. Et donc, ces extrêmes climatiques, cette montagne, cette cordillère des Andes, qui forme un balcon et qui tombe dans le Pacifique, Moi, j'adore arriver à Santiago après avoir fait escale à Buenos Aires, parce que je me mets à la place de Saint-Exupéry et de tous ces grands aviateurs, Saint-Ex, Mermoz, Guillaumet. Il n'y a pas plus beau, je pense, d'arriver à Santiago après avoir survolé la cordillère des Andes et puis de voir l'immensité, quoi. Ce Pacifique qui est une invitation au voyage.
Olivier, et je suis ravi d'avoir entendu que vous êtes un amateur d'imprévus, parce qu'il y a quelque chose que je ne vous avais pas dit au moment de se mettre d'accord pour cette interview, c'est qu'on a une petite tradition dans la franco-latine, c'est qu'on demande à notre interviewé, à vous, de nous proposer 3 thèmes de musique qu'on partage avec ceux qui vont écouter cette interview, comme ça, spontanément, qu'ils viennent à l'esprit, soit parce qu'ils vous ont accompagné pendant le voyage. La musique en général, est quelque chose qui est avec vous pendant le voyage ?
Oui, je voyage sans baladeur, sans Walkman. Ce sont des musiques que je capte au fil de la chronique nomade, au fil de ma vie nomade. Donc ce sont des musiques nomades. Ça peut être une musique dans un bistrot, ça peut être une musique que j'entends dans la chambre qui parvient à mes oreilles et qui vient de la chambre de mon voisin à l'hôtel. Ça peut être une musique que j'entends dans le bus. C'est plutôt ça mon univers musical quand je voyage. Alors la première musique qui me vient, c'est Inti Illimani, qui m'a accompagné bien sûr, et qui est une très très belle musique, enracinée dans l'histoire du Chili, enracinée dans les paysages chiliens. Donc ça, c'est le premier, oui, j'aime beaucoup Inti Illimani. Et puis la musique cubaine, parce que j'aime d'une manière générale l'Amérique latine, hein. Donc Compay Segundo, le son de Santiago de Cuba. C'est pas un hasard, il y a Santiago à Chile et Santiago de Cuba, Compay Segundo, parce que c'est une musique qui contient une grande joie de vivre, ce qu'on appelait l'allégresse autrefois, c'est un mot un peu périmé, mais c'est vrai. Et puis c'est une musique métisse, c'est important aussi, qui est composée d'influences africaines, d'influences espagnoles et d'influences caraïbes. Ça, Compay Segundo, c'est important. Et puis, une autre musique classique, parce que j'ai la chance d'avoir 6 ou 7 générations d'artistes musiciens dans ma généalogie, hein. Des pianistes, des danseurs, des chefs d'orchestre, des compositeurs, et c'est peut-être tous ces rites, hein, comme on dit. Donc j'ai mon côté un peu rêveur vient de cette grand-mère pianiste. Et donc, côté classique, je dirais Bach, le piano seul, hein, Bach, Schubert, Chopin, mais surtout les variations Goldberg.
Olivier Page, vous partez bientôt quelque part, où éventuellement ?
Alors, je rentre de Saint-Malo où j'ai été invité par Michel Lebris au festival Étonnant Voyageur pour présenter donc les Terres de Décembre à Saint-Malo, et je repars vendredi prochain pour donc le guide de Routard. Je reprends ma casquette de Routard et je vais 15 jours dans l'est de la Pologne que je ne connais pas, et je connais déjà la Pologne, c'est un pays que j'aime beaucoup, avec un ami polonais. Pendant 15 jours, ensuite j'irai 10 jours, mais pour moi, par curiosité personnelle, en Ukraine, à Kiev et à Odessa.
Olivier Page, merci d'être venu à la Franco-Latina entre tous ces voyages.
Merci beaucoup, Eduardo. Thank you.
la Franco latine.
Iria Santiago, Iria Santiago, Iria Santiago, Iria Santiago.
Cuando llegue la luna llena,
Iria Santiago,
en un coche de aguas negras,
Iria Santiago,
cantarán los techos de palmera.
Iria Santiago,
cuando la palma quiera ser cigüeña.
Iria Santiago,
cuando quiera ser medusa el plátano.
Iria Santiago,
con la rubia cabeza de Fonseca.
Iria Santiago,
de Rosal, de Romeo y Julieta.
Iria Santiago,
de papel y plata de moneda.
Iria Santiago.
Oh Cuba, oh ritmo de semillas secas, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago.
Iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago.
Siempre dije que yo iría a Santiago,
iré a Santiago,
en un coche de aguas negras,
iré a Santiago,
brisa y alcohol en la rueda,
iré a Santiago,
mi coral en las tinieblas,
iré a Santiago,
el mar ahogado en la arena,
iré a Santiago,
calor blanco, fruta muerta,
iré a Santiago,
bovino mejor de Cañavera,
iré a Santiago.
Oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago.
Iré a Santiago.
Derecha.
Iré a Santiago. Iré a Santiago, 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 iré a Santiago. Iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago.
Vive la radio.
Vive la radio.